J'aimerais vous parler ce soir de ce qui bloque notre sagesse et notre compassion. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas toujours à vivre des vies paisibles et fraternelles, mais plutôt des vies complexes et conflictuelles? C'est questionnant. Qu'est-ce qui fait que l'homme crée sa propre souffrance de cette manière-là? Le Bouddha a parlé de cette deuxième vérité noble, Tanha, qui... Tanha, c'est cette soif première. J'ai soif de bonheur, en fait. Fondamentale. Et le fait même d'avoir soif de bonheur implique que je ne suis pas heureuse. La soif nous met dans le ton, dans la personnalité, dans la projection. Et l'abandon de la soif implique une confiance dans la présence maintenant. Et c'est le seul endroit où il peut y avoir ce que nous cherchons. Je ne peux être heureuse que maintenant. Tous les espoirs de bonheur, ce sont des espoirs qui veulent dire qu'une seule chose, c'est que maintenant j'y suis pas. Alors la question, c'est comment faire pour que maintenant j'y sois. Et derrière la soif, il y a ce qu'on appelle avidya, la non-claire vision. Il n'y a pas de vision claire. Il y a quelque chose qui est voilé, ce qu'on appelle l'ignorance. Et ces voiles, ce sont les kilesas. Ils sont liés à un manque de présence et surtout de connaissance du qui suis-je. C'est pour ça que lorsque nous observons ce que je vous proposais ce matin, comment le contact crée le ressenti, et ça se passe sans cesse, je suis en train de vous parler. Et chez chacun d'entre vous, ce que vous entendez crée un ressenti et des perceptions, quelquefois neutres, quelquefois désagréables, quelquefois agréables. Et une espèce de traduction de ce contact conceptuel que vous recevez en ce moment. Ça se passe sans cesse, de manière simple, à travers les sens simples. Si je touche mon cou, le contact, c'est le toucher. La perception, c'est l'image. J'ai l'image de ma main qui touche mon cou. Et le ressenti est neutre. Ça, c'est simple. Avec le sens, le sixième sens dont parle le Bouddha, qui est cette citta, l'esprit, la conscience, le mental et l'émotionnel, ce jeu entre le mental et l'émotionnel, c'est un peu plus complexe. Mais en fait, c'est pareil. Et le fait de sortir de cette non-vision pour aller dans la claire vision, ça demande de lâcher les constructions. Ça demande d'employer les constructions au service de cette intimité de l'expérience, de ce processus. Mais de lâcher toutes les histoires. Bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, et il y a des moments pour tout. Quelquefois, l'esprit est très disponible, quelquefois très peu, selon ce que nous avons vécu. C'est pas du tout le moment de venir faire de la petite observation intérieure. Il y a d'autres chats à fouetter. Et nous fouettons le chat que nous devons fouetter. C'est ça, les choses telles qu'elles sont. Mais lorsque, dans une retraite, les choses commencent à se poser, alors on peut aller un peu plus finement dans cette chaîne réactive, on pourrait dire, ou chaîne loi de cause à effet, qui mène à la création d'un moi. Je dis moi. Moi je trouve, moi je pense, moi je suis. Voir comment ça se passe, de manière à ce que cet attachement à moi lâche un peu. Et que je puisse avoir plus d'espace intérieur. Et que je puisse de mieux en mieux voir l'expérience, la mienne et celle des autres, et moins croire à l'expérience, la mienne et celle des autres. Et se voir, je le redis parce que c'est quand même central, il est en même temps intime. Je viens dans le psychocorporel, je viens vraiment dans le ressenti, mais aussi spacieux. Ce n'est pas un ressenti qui crée un moi, c'est un ressenti objectif qui peut dire « Ah, il y a ça, ah, Et de plus en plus, la qualité d'équanimité se développe. Et lorsque je peux amener ce « ah » au maintenant, ça a un effet sur ma manière de voir les choses. Les constructions mentales qui suivent la rencontre, le contact, ce qu'on appelle les sankaras, sont moins identifiées et il y a plus de choix. Le processus va moins vite aussi. Il y a comme un espace. L'autre jour, je me suis fait engueuler. Oh. Bon, je trouve que j'avais un petit peu raison. Parce qu'il y a des animaux qui sont franchement pas bien traités à côté de chez moi. Et puis, la personne qui s'en occupe, qui est une charmante jeune femme de 21 ans, mais qui emploie ses bêtes d'une manière vraiment inadéquate, a su que je n'étais pas d'accord avec ça et que j'allais peut-être demander une inspection. Et j'ai pris un sable. Je ne vous dis pas comment. Maintenant, tu viens plus ici, c'est un endroit privé. En tout cas, l'inspection des 500 francs, c'est toi qui la payeras. Ouh, ça y allait, ça y allait. ce qui était étonnant, c'est que j'étais bien, j'étais parfaitement bien. Je voyais, je n'étais pas identifiée. Je voyais qu'elle était très fâchée. Je lui ai dit, dis donc, tu es très fâchée. Puis comme elle ne voulait absolument pas entrer en dialogue, je suis partie. Mais ce qui était intéressant, c'est que je voyais et que je n'y croyais pas. Il y avait un petit peu cette histoire où je pouvais lui laisser son problème. Alors après, ma fille m'a dit, oh, dis donc, ça a dû l'énerver alors ça. Peut-être ça l'énervait encore plus, alors je m'excuse, mais la vie, quoi. Mais c'est sûr que si à ce moment-là, je m'étais laissée débordée par la réactivité et que moi-même j'étais venue dans les sankaras, dans les constructions, ben ça aurait été pire quoi. C'était juste moins pire. C'était pas agréable. Mais c'était comme c'était. Et c'est vrai que cette manière de d'accepter que ma foi, ben voilà, les choses peuvent se passer comme on voudrait pas. On n'a pas de contrôle. La soif, c'est un besoin de contrôle. C'est une non-confiance dans le maintenant tel qu'il se passe. Mais le maintenant tel qu'il se passe, ben, c'est la vie. Je vous lis une petite parole de Nasruddin, qui est en même temps fou, mais assez sage. Nasruddin fait une balade sur la route quand il entend un grondement lointain derrière lui. Il se retourne et il voit venir une troupe de cavaliers au grand galop qui fonce sur lui. « Oh, les bandits de la bande à Zandremaque !» Et il se jette dans le fossé. Les autres, qui sont d'inoffensifs marchands qui se rendent à la ville, voient un homme courir pour se cacher. Ils pensent « Oh, il s'agit d'un brigand à la tête d'une bande armée qui va nous attaquer !» Lorsqu'il découvre le bonhomme, tout seul, terrorisé, il lui demande « Bah, qu'est-ce que tu fais là ?»«
Ce que je fais là, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je suis là à cause de vous, et vous êtes là à cause de moi.
Le monde des perceptions. Comment être libre du monde des perceptions. C'est énorme. Parce que nous y croyons sec. La cause première de l'attachement, c'est l'attachement au moi. Je crois qu'il y a un moi. Je ne vois pas cette interconnexion puissante qui fait que dire il n'y a pas de moi, on ne va pas très loin avec ça, mais je ne sais pas bien comment le dire d'autre. Qui fait que nous ne sommes rien seuls. Nous ne sommes rien seuls. Nous sommes interconnectés. C'est juste du réel. Mais le moi fonctionne comme s'il était autonome, indépendant, seul, en sécurité, contrôlant. Il fait comme s'il était permanent. Et c'est douloureux parce que ça ne correspond pas au réel. Et c'est au fond pareil lorsque nous vivons quelque chose et que nous ne pouvons pas le contacter, que la présence manque. Et que nous montons dans le mental avec toutes nos explications, nos trucs, nos machins. La souffrance ne vient que de ça, que de cet attachement à un moi qui pense, alors que le réel, c'est beaucoup plus holistique. Le corps en fait partie, l'émotionnel en fait partie, l'extérieur en fait partie, même lorsque nous sommes dans une attaque d'identification. L'espace et le silence existent. Et nous ne voyons plus. La claire vision nous est enlevée. Et puis, il y a les petits attachements, les causes secondaires de la souffrance. Alors, ils sont plus petits que l'attachement au moi, mais ils peuvent être quand même puissants. L'attachement à notre lieu de vie, l'attachement à nos proches, à notre santé, à notre voiture, à notre brosse à dents. Quand je suis arrivée à cette retraite, on m'avait pris ma tasse avec les lignes vertes et blanches. Oh, mais ma tasse! Il y a ces causes secondaires, c'est tout ce qui fait que le moi est rassuré. Et nous avons un attachement puissant à notre confort et une peur de perdre qui est redoutable. Parce que nous ne perdons rien. Mais le moi croit qu'il a tellement de besoins. Je vous lis une autre histoire de Nasruddin. J'ai retrouvé mes histoires de Nasruddin qui montrent cette puissance de l'impact du monde des perceptions, du moi. L'ego qui dit pas seulement « je suis moi, mais je veux le rester ». Un jour, Nasruddin rencontre un homme sur la place du marché. Il va vers lui et lui dit « Comment ça va, Mustapha ? Dis donc, t'as drôlement changé, t'étais plus petit, t'as drôlement grandi. » Mais, objecte l'homme, « Oh, en plus, t'avais des cheveux noirs, t'es châtain maintenant. Mais, puis t'as pris du poids. Mais, il me semble même la couleur de tes yeux a changé. Mais vraiment, Mustapha, j'ai failli ne pas te reconnaître. « Mais enfin, proteste l'homme, je ne m'appelle pas Mustapha. Ah, t'as même aussi changé de nom. » C'est ça, Nasruddin. Mais on est un peu comme ça, hein, souvent. Ces kilesa, ce qu'on appelle les kilesa, cette ignorance ou cet aveuglement qui voile notre sagesse, ils sont de deux natures. Nous pouvons simplement ne pas voir, hein, c'est brouillardeux, je vois rien, quoi. Ou bien nous avons l'impression de voir, mais nous voyons faux. Il y a une distorsion de la perception. Et je reprends mon histoire là, d'animaux. J'ai été prise émotionnellement, ça m'a tellement fait mal au cœur, ces animaux, à un moment donné. Je pleurais. Puis je me disais, oh, mais je suis vraiment contente d'avoir cette émergence émotionnelle, parce qu'au moins ça va me donner la force de faire quelque chose. Parce qu'on est tellement vite pris par le confort, ben, ma foi, ces animaux, ils souffrent, ma foi, tant pis. C'est mal fait, mais tant pis, ça va pas non plus. Et puis, je sais plus quand je disais, mais là c'était tellement évident pour moi. Des fois, il s'agit pas de choix entre le mal et le bien, mais juste entre le moins mal, entre deux mots, lequel choisir, le moins mal. Et ça, ça demande beaucoup de compassion pour soi, pour l'autre. Et les émergences émotionnelles sont parfois utiles. Savoir que je ne vois pas clair, mais que je m'engage quand même. S'il y a la pleine conscience et que l'intention est nommée, le Bouddha dit que ça ne crée pas de karma. Quand je nomme mon intention, le karma, même s'il crée la souffrance, il est libéré. Donc, lorsque nous sommes pris par ce qui les a, on pourrait dire que la conscience ordinaire, la création d'un moi, est laissée à lui-même. il n'y a pas cette nécessaire, ce nécessaire souvenir d'être là. On a mis le pilote automatique, quoi. Et c'est important de voir quand nous sommes en pilote automatique et quand il y a ce petit rajout, qui n'est pas grand-chose, mais qui, au fond, est tout. Parce qu'il permet aux émotions perturbatrices d'être de la nourriture spirituelle ou d'être de la douleur, de l'obscurité, de l'aveuglement. Les émotions perturbatrices au niveau spirituel, c'est ce qui nous fait grandir. Quand le Bouddha dit que dukkha, la souffrance, c'est l'aiguillon qui mène à l'éveil, c'est vraiment que le maintenant est toujours bon. Le maintenant est toujours bon. Si je sais le prendre comme un maintenant qui se vit dans le corps, pas seulement au niveau émotionnel, et surtout pas dans cette identification mentale qui recrée l'émotion, qui recrée l'identification mentale, qui recrée l'émotion, puis on ne s'en sort pas. Heureusement qu'il y a l'impermanence. Parce qu'à un moment donné, ça s'use. C'est donc notre système référentiel qui change, notre refuge qui change. Est-ce que je prends refuge dans le moi pensant ou est-ce que je prends refuge dans le, comment dire, dans la présence? Et la présence, bien sûr qu'elle est accompagnée du moi pensant, mais c'est complètement différent. Lorsque je me souviens d'être là et que j'emploie la pensée pour nommer mon intention, choisir mon engagement, savoir renoncer, ou peut-être pas, ou quand je laisse la pensée sauvage créer un moi, un toi fixe, en quête de sauver sa peau. En fait, on est dans une espèce de panique où il faut sauver sa peau. Mais, comme dit Ajahn Chah, mieux vaut mourir avant d'être mort. Sauver sa peau, c'est la mort de l'instant. Donc, nous sommes déjà morts. Avec la présence, nous rendons à la... au moment, au maintenant, à l'expérience, sa vie. Et c'est très très subtil parce que nous sommes vérifiés à des niveaux toujours plus profonds. Et quand nous arrivons à le faire à un certain niveau, hop, on est vérifié un peu ailleurs. C'est beau parce que c'est jamais pareil. Mettre la pensée à sa place. La pensée, elle véhicule énormément d'orgueil quand elle n'est pas vue pour ce qu'elle est. En fait, c'est elle qui véhicule le moi. Et quand elle est vue pour ce qu'elle est, ce qui est profondément bienfaisant, c'est que nous pouvons laisser faire le dharma. Il y a une confiance qui fait que ce moi n'est plus toujours sollicité. C'est bon, il peut être tranquille. Nous pouvons laisser faire, ça se fait. Et c'est bon. Et la prise de refuge est un outil très, pour moi en tout cas, très précieux, parce que c'est ça que nous disons quand nous prenons refuge, c'est que je te connais, Mininou. Je te connais, Choupinet. C'est pas toi qui vas me sauver, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, le refuge crée cet équilibre intérieur et ce que le Bouddha appelle l'inébranlable paix du cœur. Qui n'est pas forcément le cœur émotionnel, hein, qui est le cœur essentiel de l'être. Donc, nous employons de plus en plus la pensée en sachant que c'est une création. Et en questionnant, est-ce que c'est une pensée utile ou une pensée inutile? Et pour bien faire le discernement, nous n'avons pas le choix que de nous tromper. D'aller voir comment c'est la pensée inutile. Ou celle-ci, je crois qu'elle est inutile. Okay, c'est comment? Parce que tout ce que nous rejetons, tout ce que nous tenons à distance, ne peut pas être purifié par la conscience. J'aime bien quand Saint Paul, c'est Saint Paul qui dit ça, je trouve. Enfin, pareil, c'est Cartola qui dit que Saint Paul dit ça. Alors, je dis, oui. J'aime bien parce que il dit tout peut être dévoilé en l'exposant à la lumière. Et ce qui est ainsi exposé devient lui-même lumière. C'est vraiment la pleine conscience. Lorsque je mets en lumière ma colère ou n'importe quoi, mon jugement, ma confusion, ah, c'est la confusion, c'est comment? Et que l'accueil est là, le plein accueil de la conscience. Ça n'est plus un problème. La confusion n'est plus quelque chose de gênant. La colère est quelque chose d'utile, de précieux même. Parce que c'est ça qui va nous mener à la fraternité et au lâcher prise et à la force intérieure de pouvoir rencontrer tous ceux qui les a. Chez nous et chez l'autre. Donc, pour abandonner les Kilesa, nous n'avons pas le choix que de faire la rencontre. De volontairement dire oui, d'accord, à tous les maintenant. Ah ben, c'est un gros boulot. Et c'est un gros boulot. Parce que d'une certaine manière, le non-moi, ça n'est pas quelque chose que je peux acquérir ou que je peux posséder. Mais c'est quelque chose qui vient quand j'abandonne. Quand j'abandonne cette soif qui me met dans le temps, qui me sépare. Dès qu'il y a la soif, je suis séparée du maintenant. Et du coup, je crée un moi. Il y a une petite phrase de Milarepa qui dit « Comme le brouillard se dissipe par la chaleur du soleil, les opinions s'éclaircissent par la force de la réalisation. Il n'y a pas d'autre moyen de se libérer de nos opinions. » Acceptons-les comme des rêves sans fondement, vivons-les comme des bulles éphémères, regardons-les comme un arc-en-ciel sans substance, comme l'espace infini. C'est une réalisation lorsque nous savons simplement nommer la pensée. Sentez la différence. Il y a un jugement qui arrive. Je suis prise par le contenu. Ça met le moi à l'étroit parce qu'il aimerait être tout puissant. Et puis voilà, qu'il est tout petit, qu'on lui dit qu'il est tout petit, pas bien, ou Dieu sait quoi. Ou le même machin vient. Ah, jugement. Waouh. Ok, quel va être le suivant? Ah, encore un. Encore un. Et sentez la différence lorsque je peux accueillir cette force du jugement avec un cœur ouvert, un cœur essentiel ouvert. Ben c'est intéressant, la vie est intéressante. Tandis que lorsque je le prends pour ce qu'il voudrait être, je crée ma souffrance. Je suis la seule à créer ma souffrance. La seule. L'autre n'a aucun impact sur moi que celui que je lui laisse avoir. Donc nous devons nous entraîner à vider, nous vidons Chitta, le monde, l'esprit, de tout ce qui est le trop, en voyant les commentaires qui émergent et passent, et nous remplissons les maintenant de présence. C'est pour ça que la continuité du souvenir d'être là au quotidien est importante. À chaque fois que je me souviens d'être là, quand je descends les escaliers, quand je vais aux toilettes la nuit, quand je mange, quand je rencontre quelqu'un, dans l'interrelationnel est encore plus difficile, c'est pour ça qu'on a le dialogue conscient pour s'entraîner. Chaque fois qu'il y a ce souvenir, c'est comme si nous lâchions une goutte dans le baquet et les cellules se transforment. Il y a quelque chose qui se transforme. Et c'est bienfaisant pour tout le monde. Parce qu'au lieu d'avoir ce moi qui se vit dans les extrêmes, les intensités, c'est glacé, ou bien c'est brûlant, c'est rigide, ou bien c'est tout fusionnel, eh bien, on a un moi qui devient juste bon chaud. Juste bon chaud, ça suffit. Le maintenant est assez. Il y a un équilibre qui se crée. Donc, nous travaillons Sati encore et encore. Nous nous exerçons à recevoir le maintenant avec équanimité. Une parole d'Ezra Baïda. La pratique spirituelle, c'est aussi d'apprendre comment recevoir avec un cœur ouvert les choses, les chocs de la vie, les choses que vous n'aimez pas, les gens qui vous critiquent, le travail qui va mal, le partenaire qui vous quitte, la santé qui fait défaut, tout ce qui vous ébranle. Et avant de se mettre en chemin, nous voyons nos expériences en termes de bien et de mal. Mais lorsque nous entrons vraiment dans le chemin, nous les voyons uniquement comme des opportunités pour nous éveiller. C'est donc essentiel de ne pas mépriser les obstacles, les émotions perturbatrices et tout ce qui nous met à l'étroit. Au contraire, de se souvenir que c'est le maintenant et que nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes pour accueillir ce maintenant avec sagesse et avec compassion. être un peu perdue, ne plus savoir quoi faire, fait partie du chemin. Peu à peu, nous osons complètement nous perdre parce que il y a moins ce moi qui pourrait être perdu. Il y a plus juste le dharma qui... qui nous connecte. C'est plus vraiment nous qui connectons le dharma, c'est lui qui nous connecte. Nous sommes connectés. Et je pense que ce que nous redoutons le plus, quand on parle de non-amour, bien sûr, il y a l'amour horizontal, la fraternité, qui est importante, mais cette connexion du dharma, cette connexion de la présence du maintenant, au fond, elle est plus sûre. Elle est même très sûre. Je vous lis encore une parole de Wellwood. L'avidité, le désir, vient d'un sens de manque. Je n'ai pas assez, je ne suis pas assez. Quel est ce ressenti, si ce n'est celui d'être coupé de l'amour ? Peut-être le désir est-il si fort parce que nous croyons qu'il va soulager notre manque. Mais il ne peut nous donner ce que nous cherchons vraiment. Il nous laisse encore plus emprisonnés dans notre soif, car seule la force de l'amour peut nous satisfaire. L'amour agapé. La tradition, en philosophie, on a ces trois sortes d'amour. Eros, qui est l'amour sensuel, pour la nourriture, pour la belle musique, l'amour physique aussi. Eros. Philos, qui est l'amour fraternel, pour nos proches, pour les gens que nous apprécions. Et puis agapé, qui est cet amour totalement gratuit pour rien, parce que nous sommes connectés, parce que nous sommes liés au niveau vertical comme au niveau horizontal, par la force des choses, pas parce qu'il faudrait, ou ce que ça doit être autrement. Nous sommes liés, nous sommes reliés. Et alors, quand cette conscience-là s'éveille, ben, il n'y a plus de manque, il ne peut pas y avoir de manque. Et ce chemin progressif devient de plus en plus immédiat. Alors, je propose qu'on s'exerce pendant un moment à être là.